France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, les menaces sur le bac 2019, les nouveaux visages à Bruxelles, Édouard Philippe en Corse, le compte suisse de Raymond Barre et la lutte contre la haine en ligne. C'est dans Les Informés avec vous. Bonsoir, Jeannick Halimi.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. À mes côtés également, bonsoir, Daï Kodoui.
Bonsoir, tout le monde.
Journaliste politique à France Info, la TV, sur le canal 27. Avec nous également, bonsoir, Jean-Sébastien Ferjou.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur d'Atlantico. Et bienvenue à vous, Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Nous
Bonsoir.
Sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Y a-t-il un risque sur le bac 2019? Certains professeurs, vous le savez, refusent de remettre les copies corrigées pour protester contre la réforme du bac. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, s'est exprimé tout à l'heure sur BFM TV.
Vendredi, les élèves auront leurs résultats. C'est mon devoir de garantir cela. Et c'est bien entendu normal que les élèves aient leurs résultats à la date prévue, ne serait-ce que parce qu'il y a des conséquences des résultats, notamment le fait de passer éventuellement l'oral de rattrapage en début de semaine prochaine. Les professeurs qui se mettraient dans la situation de ne pas avoir rendu leurs copies sont considérés comme grévistes à partir du jour où ils ont pris les copies et jusqu'au jour où ils devaient les rendre. Cela signifie que c'est des retraits de salaire de 10 à 15 jours qui auront lieu pour ceux qui se sont mis dans cette situation.
Jeannick Halimi, réponse de fermeté de Jean-Michel Blanquer.
Réponse de fermeté, oui. Et bien évidemment, le ministre ne remet pas en cause le droit de grève des examinateurs et des professeurs. Mais il est là aussi pour maintenir, entre guillemets, l'ordre public qui est le bon rendu des copies.
Oui, il dit vendredi, hein, quoi qu'il arrive.
Voilà. Vendredi, quoi qu'il arrive. Donc il est dans son rôle. Après, qu'ils veulent peut-être à la rentrée ou plutôt possible réengager, je n'en sais rien, hein, des négociations pour réformer la réforme. Forme libre à lui, mais en tout cas, il respecte le droit de grève, mais il fait en sorte que les engagements, entre guillemets, de la République soient tenus au regard du rendu des copies. Moi, ça me paraît bien équilibré.
Alors, vous parlez des copies, hein, Daï Kodoui, 126 000 copies actuellement retenues sur un total de 4 millions selon le collectif Bloquant Blanquer. C'est un décompte en ligne. Le ministre a déclaré moins de 100 000 tout à l'heure chez Routel Krief sur BFM TV. Faut-il s'en inquiéter?
Et il espère que demain, il y en aura encore moins, que les professeurs, au dernier moment, mettront la petite note là où ils doivent la mettre. Faut-il s'en inquiéter? Pour les élèves, là aussi, Jean-Michel Blanquer, parole de fermeté vis-à-vis des professeurs. Une fermeté relative quand même, parce qu'il y avait un appel surtout autant à la sanction, mais aussi au bon sens républicain. Et puis, là, il s'est voulu rassurant avec les élèves. Vous aurez une note de toute manière, ça sera celle du contrôle continu. Si après, la note de la copie viendra, ça sera le mieux-disant. C'est-à-dire que voilà, votre résultat que vous aurez demain ne sera pas mis en cause si on retrouve la copie. Pardon, parce que ça, c'est le cas quand il y a une perte de copies, mais quand la note sera effectivement donnée.
Sous Sylvain Courage, on a envie de dire quand même, tout de même, touche pas au bac.
C'est un impératif, parce que le bac, c'est juste un passage vers l'enseignement supérieur. Donc si on ne parvient pas à délivrer les résultats au bon moment, c'est toute la filière ensuite derrière qui est perturbée. Et c'est vrai que c'est un rite de passage aussi symbolique pour les élèves, pour les familles, et que donc ça peut avoir un vrai impact politique, enfin, ça peut vraiment agacer plus que ça les Français.
Tout en comprenant les revendications des enseignants, est-ce que vous pensez que c'est peut-être un sanctuaire qui a été attaqué là, le baccalauréat?
C'est un peu paradoxal parce que ils attaquent le bac et c'est le bac qui doit être réformé, puisque c'est le but de la réforme du lycée, c'est de changer le bac et de l'établir plus sur une forme de contrôle continu. Donc quelque part, par leur activité, par leur action, les profs peut-être apportent du moulin, apportent de l'eau au moulin, du ministre, parce qu'il faut le réformer, ce bac.
Jean-Sébastien Ferjou, justement, réforme du bac, dit à l'instant Sylvain Courage. On a l'impression que Jean-Michel Blanquer a bien mené son affaire les premiers mois, les deux premières années de ce quinquennat, et qu'aujourd'hui, ça coince à l'éducation nationale.
Ça coince plus ou moins, puisque malgré tout, la proportion de professeurs qui s'opposent à la réforme, en tout cas qui se mobilisent dans l'opposition à la réforme, reste assez minoritaire. Mais effectivement, je pense que
Jean-Michel Blanquer.
Blanquer a beaucoup bénéficié de son image d'a priori positif le concernant, parce qu'il paraissait être l'homme du bon sens, en quelque sorte, celui qui osait aller à l'encontre d'un certain nombre de pédagogismes ou de vérités un peu bizarres qu'on avait laissé s'installer au sein de l'éducation nationale. Maintenant, on se rend compte qu'il ne suffit pas des mots, ne suffit pas de la posture et qu'il faut de l'action. Et déjà, Jean-Michel Blanquer, effectivement, avait été probablement assez affaibli cet hiver au moment du mouvement Pas d'amalgame. Vous vous souvenez, il y avait eu une agression dans un lycée de l'Académie de Créteil et les professeurs de l'Académie de Créteil s'étaient mobilisés en rappelant qu'à l'époque où Jean-Michel Blanquer était le recteur, il faisait partie de ceux qui disaient surtout pas de vague. C'était pas d'amalgame d'ailleurs, oui. C'était pas de vague.
Pas de vague.
Et donc je pense que oui, il est rattrapé par quelque chose de l'ordre de la politique réelle. Les mots ne suffisent pas toujours.
Ils ne suffisent plus
à gérer les choses. Maintenant, la réponse de fermeté, elle me paraît parfaitement logique dans les circonstances actuelles. Elle me paraît d'autant plus logique qu'encore une fois, il n'a pas face à lui une opposition massive. On peut toujours plus se permettre d'être ferme quand il y a une petite minorité de gens concernés que quand vous avez un mouvement massif en face.
Jean-Luc Haïmi, c'était le premier élève de la classe, hein, Jean-Michel Blanquer.
Oui,
c'est fini, ça.
Il était tout le temps donné en exemple. Souvenez-vous, lorsque Gérard Collomb a démissionné, qu'on cherchait un ministre de l'Intérieur, ce qui circulait, c'était il faudrait un Jean-Michel Blanquer de la place Beauvau, c'est-à-dire une personnalité et politique et technocratique en même temps, c'est-à-dire qu'il puisse régler les problèmes quantitatifs, qualitatifs d'un grand ministère comme d'une grande maison, mais également aussi incarner une politique forte et sa mise en œuvre sur le terrain. Il l'a incarné avec beaucoup de brio, on en reparlera peut-être tout à l'heure, en incarnant un peu et la droite et la gauche, une politique de gauche, vous vous souvenez, avec le dédoublement de certaines classes dans des zones d'éducation prioritaire.
C'est une bonne réforme quand même, non, ça ?
Pardon ?
Une bonne réforme.
Alors, c'est une bonne réforme, mais alors je rejoins ce que dit Jean-Sébastien Fernoux, c'est que, alors là, il y a eu plus que des mots, hein, il y a eu des lois de voter, une première mise en œuvre, mais pour le moment, alors ça ne fait à peine moins de deux ans, pour le moment, les résultats demandent à être transformés.
Et puis d'une certaine manière, malgré tout, bonne réforme ou pas bonne réforme, je pense qu'on pourrait poser la question un peu dans l'autre sens. Là, on prend la question par la sortie, c'est-à-dire le baccalauréat, qui est le terme de la scolarité des élèves français, en tout cas dans le primaire et le secondaire. Comment se fait-il que des générations entières arrivent justement au bac, qu'on ait des taux de réussite exceptionnels avec un taux de mention sans commune mesure, avec ce qu'il était il y a 15 ans, il y a 20 ans, avec malgré tout des élèves derrière qui arrivent dans l'enseignement supérieur en ne sachant tout simplement pas écrire. L'enjeu, je ne suis pas certain, moi, que ce soit le bac et que ce soit la meilleure manière de justement habiller cette espèce d'échec de l'enseignement français, c'est plutôt en amont qu'il se pose.
Il y a un autre problème, au-delà de la réforme des dédoublements, notamment qui demande encore une fois à être transformé sur le terrain, c'est Parcoursup, évidemment. Alors les intentions étaient bonnes, il y avait une certaine clarification, mais là encore, tout au bout de deux ans, tout n'est pas encore réglé, loin de là.
Allez, 20h11, pardon pour le retard, rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
En Haute-Loire, le parquet du Puy-en-Velay ouvre une enquête pour blessures involontaires. Cela après qu'un homme de 70 ans a été piqué hier par des abeilles à plusieurs centaines de reprises. C'était sur la commune du Brignon. Ce septuagénaire se trouve toujours dans un état grave. Sa compagne, âgée de 52 ans, a elle aussi été piquée. Dans ce dossier, un apiculteur pourrait être mis en cause. Un dernier hommage rendu aujourd'hui à Paris à Eva L. C'était au cimetière du Père-Lachaise. Cette jeune fille de 11 ans s'est suicidée le 21 juin dernier à Herblay, dans le Val-d'Oise. Elle a été victime de harcèlement dans deux établissements scolaires qu'elle a fréquentés. Ses parents ont ouvert une cagnotte sur le site internet Litchi, cela au profit d'une association de lutte contre le harcèlement. Le ministre de l'Éducation l'assure, tous les candidats du bac auront leurs résultats ce vendredi comme prévu. Affirmation alors que des correcteurs menacent de garder les copies qui leur ont été remises. Une démarche pour inciter le gouvernement à rouvrir les négociations sur la réforme du baccalauréat et du lycée. En tennis, le tournoi de Wimbledon, le français Hugo Humbert s'est qualifié aujourd'hui pour le troisième tour. Même chose pour Benoît Paire qui continue l'aventure après l'abandon de son adversaire ce mercredi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un mot encore avec vous, Jeannick Halimi, sur ce qu'évoquait à l'instant Thomas Bénèche, le suicide de cette collégienne à Herblay. Il y avait les obsèques aujourd'hui au Père Lachaise à Paris. C'est un combat qu'il faut mener en priorité dans l'école. C'est une des priorités du ministre de l'Éducation nationale,
d'ailleurs. Une information du Parisien.
Information du Parisien qui a vraiment marqué les esprits aujourd'hui.
Qui a marqué les esprits, le suicide d'une petite fille de 11 ans. Comment voulez-vous que ça ne marque pas les esprits avec, effectivement, la mise en cause de ce harcèlement à l'intérieur même d'une école qui, au contraire, devrait être un havre de science et d'équilibre psychologique pour les enfants. Vous avez raison, Jean-Michel Blanquer s'en est saisi, non pas de façon opportune, mais enfin, il a bien expliqué nécessaire, qu'il y avait oui. des mesures, voilà, bien sûr, voilà, nécessaires et légitimes, qu'il y avait des mesures de dialogue, de
oui, des
préventives,
des heures de sensibilisation.
Qui,
oui.
Voilà, qui allait être.
Il faut préciser que c'est pas un harcèlement entre élèves aussi, c'est un harcèlement des
profs. Vous avez raison, voilà, oui, non, bien sûr.
C'est pour ça que M. Blanquer est directement
Absolument.
Concerné dans ce qu'il peut.
Vous avez raison de le souligner. Oui,
Daï Kodoui, ce sont des chantiers qui dépassent le seul cadre de l'école, tout ce qui se produit aujourd'hui, ce qui se passe dans les établissements aujourd'hui.
Ben, ça rejoint un autre sujet dont on va parler, qui est la haine sur Internet, parce que clairement, le harcèlement entre élèves passe par les réseaux sociaux, la réputation, les photos. Donc ça dépasse le cadre de l'école, puisque ces instruments-là, ils peuvent être régulés en dehors de l'école. Mais ces harcèlements existent aussi dans le cadre de l'école. Et dans le cas de cette petite fille de 11 ans, ce qui est mis en cause, c'est aussi les professeurs.
Oui, encore un mot.
N'oublions pas
quand
même, pardon, excusez-moi, les multiples suicides de professeurs qui ont eu lieu depuis plusieurs mois, dû à un harcèlement des élèves à l'intérieur même des établissements. N'oublions pas non plus ce phénomène-là.
Sylvain Courage, 700 000 enfants qui disent avoir subi du harcèlement à l'école, des chantiers immenses pour le ministre de l'Éducation nationale. On évoquait donc le rôle de Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'aujourd'hui, il est face à une grande difficulté au sein de l'Éducation nationale?
C'est un ministère qui est très difficile parce que finalement, l'école, elle est traversée par toutes les violences, toutes les précarités, toutes les difficultés de la société. Et donc, effectivement, plus il avance, plus son capital politique initial, ça menuise parce que il fait des réformes, mais d'autres dossiers s'ouvrent, d'autres sujets explosent, et donc effectivement il a encore beaucoup de chemin à faire, et on voit que la situation quand même se détériore dans les établissements.
Allez, tout à fait autre chose à présent à 20h15 sur France Info, c'est l'autre titre des informés ce soir, le Parlement européen qui dispose désormais de son nouveau président, c'est un socialiste italien, David Sassoli, 63 ans, il était le candidat des sociaux-démocrates, ancienne vedette du JT, hein, de la RAI chez nos amis italiens, Yannick Jadot s'est insurgé, lui, de l'exclusion des Verts de la gouvernance du Parlement européen, l'eurodéputé, leader d'Europe Écologie Les Verts, qui a critiqué la nomination d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission.
C'est une personne qui n'est pas élue, c'est une personne qui n'a pas d'expérience européenne, c'est une personne qui n'a pas été impliquée dans les élections européennes. Donc tout ça est une rupture par rapport au Parlement européen, un déni de démocratie. En plus, on nous promettait, et le président Macron nous promettait des personnalités qui allaient participer au sursaut européen. On voit bien que ce sont des personnalités de second rang qui doivent tout au Conseil, et qui donc vont affaiblir et la Commission et le Parlement européen.
Jean-Sébastien Ferjou, grande frustration pour Yannick Jadot. D'abord sur les Verts, vous pensez qu'ils méritaient, vu les enjeux climatiques aujourd'hui qui vont croissant, quelque chose de plus conséquent? C'est-à-dire un vrai poste?
Je ne vois pas en quoi les enjeux climatiques concerneraient uniquement les Verts. Il me semble que ça concerne l'ensemble des forces politiques en présence. Et je ne suis pas certain que les solutions proposées par les Verts, en France en tout cas, parce que dans d'autres pays ils sont souvent beaucoup plus pragmatiques, soient les plus efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique. Maintenant, je pense que Yannick Jadot met le doigt sur le problème fondamental de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a deux logiques. Regardez, Emmanuel Macron a dit « je veux plus de démocratie, je mets un terme au système des Spitzenkandidats », justement ces candidats issus finalement du résultat direct des élections européennes en prenant les candidats qui sont à la tête des groupes majoritaires. Et puis là, maintenant, on nous explique, alors que dans le quinquennat précédent, on nous avait expliqué que ça, c'était démocratique. Et Yannick Jadot, lui, dit « bah non, c'est le Parlement qui est plus démocratique ». Mais à un moment, il faut savoir trancher. C'est-à-dire que où est la plus grande démocratie? Dans la mesure où il n'y a pas de peuple européen, on voit bien que précisément, il n'y a pas de démocratie au niveau du Parlement, parce que si on renonce à la démocratie, en quelque sorte, au niveau de la souveraineté des États, parce que c'est ces deux arguments-là qui s'oppose là, ben là on voit bien que l'Europe est revenue à une phase où ça se joue plus au niveau intergouvernemental et au niveau national, parce que la démocratie continue à passer avant tout dans le cadre des États et à travers le prisme de la souveraineté des États.
Sur la nomination double d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et de la française Christine Lagarde à la tête de la BCE, je vous propose d'écouter ce qu'en ont dit Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes sur Radio Classique, et Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise du Nord, c'était sur France Inter.
Je crois que c'est important de rappeler effectivement leurs grandes compétences. Je dirais surtout que là, on est en train de vivre un moment historique, puisque c'est la première fois qu'il y a deux femmes à ces postes clés, ces top jobs, comme on dit au niveau de l'Europe, et on le doit au président Emmanuel Macron. Donc je crois que c'est vraiment
et à Madame Merkel.
Oui, mais c'est lui qui a donné l'impulsion avec, en faisant de la parité un critère, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Je vois qu'on commande depuis hier soir beaucoup le casting, le fait que par exemple ce soit des femmes, de ce point de vue on peut s'en satisfaire, mais peut-être que notre satisfaction peut s'arrêter là. Ce nouveau casting, c'est finalement on change les têtes, mais on va recommencer le même scénario.
Daïk, oui, on ne prend pas les mêmes, mais on recommence, comme le semble le dire Monsieur Quatennens.
Faudra voir sur les missions précises de l'une et de l'autre. Hein. Christine Lagarde, elle a la tête de la BCE, et si elle fait la même politique, c'est est-ce qu'elle est pour une politique de taux bas? Elle continue comme faisait Mario Draghi. Hein. Là, on rentre dans des débats économiques qui dépassent ma petite compétence, mais c'est ça l'un des enjeux. Au lieu de dire que c'est une politique libérale ou pas que va défendre l'Europe, et puis c'est un peu plus général quand même pour la présidente de la Commission allemande, qui là, en effet, a priori, est PPE, elle est présentée comme modérée au niveau de la droite allemande. Voilà, c'est pas non plus forcément une centriste. Elle est modérée par rapport aux alliés bavarois de Mme Merkel. Elle reste quand même quelqu'un qui est à droite et, a priori, ça va être la politique allemande qui va être défendue. C'est toujours le problème quand on parle d'Europe. Est-ce que Mme Lagarde ou la présidente allemande vont défendre les intérêts de l'Allemagne ou les intérêts de la France? Comment elles vont arbitrer quand il y aura une confrontation entre Angela Merkel, le successeur ou la successeuse d'Angela Merkel et Emmanuel Macron? Ou est-ce qu'elles défendront l'Europe et, derrière l'Europe, peut-être une certaine idéologie européenne? Ouais. C'est ce que dit un peu M. Quatennens.
C'est une des questions posées. Jeannick Halimi, vous diriez vent positif de Bruxelles ou pas?
Parce que ce sont des femmes, c'est une avancée sociétale, certaine, mais est-ce que c'est une révolution politique? Je ne pense pas, parce que...
Pas exactement, oui.
Non, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas parce que ce sont des femmes que ça va être une révolution politique et que la construction...
C'est même une forme de sexisme, d'ailleurs, en quelque sorte, de se réjouir uniquement du fait qu'elles soient des femmes.
Voilà, on va pas...
Jean-Sébastien Ferjou vous dit sexisme ce soir, c'est d'accord.
Non, mais dans l'argumentaire développé par Mme Schiappa, paradoxalement, se réjouir uniquement du fait qu'elles soient des femmes et pas qu'elles soient des personnalités compétentes, c'est une forme de sexisme.
Par contre, ce qu'il faut espérer... Pardon,
on parlait de Margaret Vestager, par exemple, ça aurait été politiquement plus signifiant parce qu'elle incarnait éventuellement un sursaut politique, ce qui n'est pas le cas de Ursula von der Leyen, qui est quelqu'un qui est affilié à Merkel, mais dont on ne connaît pas exactement...
Si, alors on connaît quand même certaines choses, on peut être pour, mais... on peut être contre, et on peut estimer que ce n'est pas une révolution, ou pas assez en tout cas de progrès dans ce qu'elle représente. Elle est pour un fédéralisme réel et pour des États-Unis d'Europe. Alors moi, je ne veux pas injurier l'avenir, je n'en sais strictement rien, ce n'est effectivement pas une femme de gauche, mais elle incarne quand même quelque chose de symboliquement fort au niveau politique et au niveau européen.
Nous restons sur les questions européennes pour l'heure 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
L'Italien David Sassoli, élu aujourd'hui à la présidence du Parlement européen, c'est le dernier poste clé de l'UE à pourvoir. David Sassoli est un ancien journaliste à la télé, il est eurodéputé depuis 2009. Hier soir, les chefs d'État et de gouvernement ont désigné 4 candidats pour occuper les fonctions les plus en vue de l'Union européenne. La Française Christine Lagarde hérite notamment de la Banque Centrale Européenne. Une femme de 20 ans, enceinte de 3 mois, tuée par son conjoint à Saint-Denis, en région parisienne, le drame s'est noué ce matin. Le compagnon de la victime est interpellé, cette affaire porte à 71 le nombre de féminicides observés depuis le début de l'année en France. Les hommes du maréchal Haftar en lutte contre le gouvernement libyen nient toute implication dans la mort de 44 migrants hier soir. C'était lors d'un raid aérien. Il a frappé un camp de réfugiés installé à Tripoli, la capitale libyenne. Le secrétaire général de l'ONU réclame dans ce dossier l'ouverture d'une enquête indépendante. Au Soudan, les leaders de la contestation acceptent la reprise des négociations avec les généraux au pouvoir. Ils fixent un cadre à ces discussions 72 heures, pas plus. Le dialogue était rompu depuis le mois de mai entre les deux parties. Les contestataires du pouvoir demandent à ce que les rênes du pays soient confiées à une instance de transition composée de civils.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sylvain, courage. Pour poursuivre ce qu'avançait tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ce qui s'est produit, 3 jours de négociations assez solides, douloureuses peut-être, même est-il le signe quand même, malgré tout, que quelque chose est en train d'évoluer dans le mode de fonctionnement de ces institutions européennes, quelque chose qui serait de l'ordre de quelque chose de plus démocratique, on va dire, puisque ça discute et on a changé de système.
Oui, on a vu qu'il y avait des tractations. Après, c'est vrai que ça n'a pas profité aux personnalités de premier plan, d'où la surprise d'ailleurs, puisque c'est vrai que c'est des noms qui ont surgi au dernier moment. On voit quand même que derrière les nominations, il y a des équilibres nationaux avec le couple franco-allemand qui se partage les postes les plus importants. Donc Je sais pas si ça peut être considéré comme un vrai progrès démocratique, parce que ça ressemble quand même un peu à ce qui se pratiquait jusqu'à présent.
Vous voulez dire que c'est de la tambouille toujours à Bruxelles?
C'est un compromis. Alors c'est un compromis, on peut le trouver admirable parce que c'est pas facile à trouver un compromis, mais on peut aussi le trouver bancal parce que c'est pas forcément une percée conceptuelle, c'est pas révolutionnaire.
Oui, cher Sébastien Ferjou, partagez le point de vue de Sylvain Courage.
Mais moi, c'est ce que je vous dis, je trouve que ça montre surtout l'impasse dans laquelle se trouve l'Europe à l'heure actuelle, parce qu'on est incapable de trancher justement entre cette aspiration plus fédéraliste et le fait que tout simplement ça ne fonctionne pas dans la mesure où il y a une Europe et un certain nombre d'États qui ne souhaitent plus aller dans la même direction. Donc pour que on puisse aller vers un processus plus démocratique d'un point de vue fédéral, c'est-à-dire que cette démocratie se joue au sein de l'Union et non pas par le contrôle exercé par chacun des États sur le fonctionnement de l'Union, bah il faudrait que il y ait un peuple européen qui ait envie d'aller dans la même direction. On voit que en l'état ça n'est pas le cas, et que même ceux qui sont les plus européens, comme Emmanuel Macron ou comme Angela Merkel, qui l'a toujours été, reviennent sur des postures beaucoup plus nationales, et que ce sont finalement les critères nationaux qui l'emportent.
J'écoute, j'entends effectivement que l'Europe n'est pas au meilleur de sa forme. C'est bien évident avec le Brexit et toutes les forces centrifuges qu'on connaît, et à l'intérieur même de l'Europe, cette fameuse orbanisation, où à l'intérieur de l'Europe, il y a des pays qui souhaitent transformer totalement la philosophie sur laquelle s'est construite l'Union ou la communauté européenne après la Deuxième Guerre mondiale, ce fameux esprit des Lumières. Effectivement, l'Europe est à un point, pas le plus bas malheureusement, parce que ça peut être encore pire, mais très très, bien évidemment, mais très très bas. En revanche, il faut espérer sur le fond, au-delà des calculs dans lesquels nous sommes tous de présidents, de commissions, etc., que l'Europe apporte des solutions aux problèmes de ces fameux peuples qui ne sont pas content de cette Europe qui ne protège pas, qui ne défend pas, etc. Et que, quels que soient les présidents de commission, présidents du Conseil ou présidents du Parlement, qu'il y ait enfin des majorités dignes de ce nom, capables d'empêcher une déferlante de populisme extrême, on va dire, et puis enfin d'enclencher ou de réenclencher une mécanique économique, industrielle et monétaire qui permette de développer une véritable puissance économique européenne et de lutter contre le chômage. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Il y a des dossiers qui fâchent. Le gouvernement français a donné aujourd'hui son feu vert, vous le savez, à la ratification par l'Assemblée du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, malgré un certain nombre de critiques exprimées par les écologistes, les agriculteurs, différentes organisations. CETA salué tout à l'heure lors de l'instant politique sur France Info par Jean-Baptiste Lemoine, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
Le CETA, tout simplement, on l'a vu en vigueur depuis un an et demi. Que s'est-il passé? La France, elle a plus exporté, plus 6,5%. Elle a eu un excédent commercial qui s'est accru vis-à-vis du Canada, 450 millions d'euros, c'est pas rien, ça crée des emplois. Et les craintes qui existaient de la part de certaines filières agricoles, je pense à la filière bovine, ne se sont pas réalisées.
Alors Daïk Odoui, pourquoi le CETA, ce serait bien, ce serait chouette, alors que le Mercosur, dont on a longuement parlé hier soir aux informés de France Info, ce serait au fond un accord à rejeter absolument?
C'est compliqué parce que c'est assez technique quand même. Parce que dans quelle mesure
sur le principe, c'est le libre-échange en fait.
Oui,
voilà.
C'est le libre-échange, mais c'est sur les conséquences, sur les normes de production des produits qu'on échange par rapport notamment aux normes écologiques. C'est ça qui sont les principales résistances. Il y a deux critiques sur ces traités internationaux. C'est la question des déséquilibres économiques et surtout pour le grand public, parce que là ça concerne les agriculteurs sur est-ce que les rapports sont équilibrés, et pour le grand public, est-ce que dans notre assiette il risque d'avoir des produits qui n'ont pas les mêmes normes écologiques que nous. Du côté du Canada par exemple, on est un peu plus rassuré que sur le côté de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est aussi la différence qu'il y a au sein de l'opinion, parce qu'après si on regarde au sein des traités, dans les normes, notamment tout ce qui est la filière bovine, là je ne suis pas un spécialiste.
Oui, mais Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord?
Moi, je crois que c'est pas le principe du libre-échange qui se joue. Si vous allez voir un bon médecin ou un mauvais médecin, l'un vous fait une bonne ordonnance, l'autre une mauvaise, c'est pas la médecine qui est en cause, c'est le médecin. Donc, on peut pas comparer.
Traitement.
Ou celui qui a prescrit le traitement. Mais il peut y avoir des traités de libre-échange qui sont bien négociés et d'autres qui sont moins bien négociés. Après, effectivement, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. On peut pas à la fois vouloir être une grande puissance exportatrice exportatrices et ne pas vouloir de produits qui viendraient d'ailleurs. Et encore une fois, c'est aussi aux consommateurs de se responsabiliser. Moi, je crois que c'est aussi à chacun de savoir ce qu'il consomme, de prêter attention à ce qu'il consomme, parce que personne ne va vous forcer à acheter des produits canadiens ou à acheter des produits en provenance du Uruguay.
Oui, mais je ne sais
pas toujours, mais il y a les moyens de le savoir quand même. Il y a les moyens de le savoir. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, on ne peut pas remettre en cause le principe. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, le protectionnisme n'a jamais marché. En revanche, il y a des phases où le libre-échange a été très mal négocié.
Ce sont deux aspects très différents. C'est bien de négocier qu'il y ait des contraintes écologiques, sociales et fiscales à l'origine de la production des produits.
Je vous interromps,
oui, on est d'accord sur les normes.
Je vous interromps tous les deux, il est 20h28 sur France Info, c'est l'heure de la pause, pardonnez-moi. Nous revenons dans un instant après la météo et le rappel de l'info, à tout de suite pour la suite des informés de France Info.
Chérie, t'es prêt à reprendre des couleurs ?
Oh que oui !
Alors on y va. Maillot, lunettes, crème solaire ?
Ok.
Les billets de train ?
Prêt.
La réservation d'hôtel ?
Y avait plus d'encre pour imprimer.
Mais je t'avais dit de prendre le forfait HP Instant Ink.
L'abonnement de ta sœur pour imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois ?
Bah oui, HP Instant Ink. Tu imprimes gratuitement jusqu'à 15 pages par mois et les cartouches sont livrées avant qu'on soit en panne.
HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Les prévisions météo avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Attention aux orages encore localement forts ce soir entre le Massif central et les Alpes du Sud. Demain, les hautes pressions centrées sur les îles britanniques vont s'étendre au-dessus de notre pays pour nous offrir une belle journée estivale. Prévoyez tout de même des averses en cours d'après-midi sur les différents massifs montagneux et des orages uniquement sur le relief des Pyrénées et des Alpes. Les températures en fin de nuit seront généralement comprises entre 11 et 18 degrés, comptez 18 à 20 dans le sud-ouest et 20 à 24 près de la Méditerranée. Avec ce bon ensoleillement, les températures maximales vont s'envoler. Prévoyez 24 à 30 degrés dans la moitié nord du pays, 30 à 35 degrés dans la moitié sud. La maximale de 35 degrés est prévue du côté de Nîmes.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Les résultats du bac seront donnés vendredi à tout prix, et ce même s'il y a des copies manquantes. Déclaration ce soir sur BFM TV du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, alors que cette édition 2019 de l'épreuve est perturbée par des candidats placés en garde à vue pour des fraudes, des grèves de surveillance, de correction, et certains correcteurs qui refusent donc de saisir les notes des candidats. En protestation à la réforme du ministre. Tous les élèves auront un résultat vendredi, a donc dit ce soir Jean-Michel Blanquer. Pour ceux qui n'auront pas leur copie vendredi, c'est la note du contrôle continu qui sera retenue dans l'attente du résultat. Et c'est la meilleure des deux notes qui sera retenue au final. Le parquet du Puy-en-Velay a ouvert une enquête pour blessure involontaire après la violente attaque par un essaim d'abeilles de deux randonneurs hier au Brignoux. C'est en Haute-Loire, hospitalisé à Saint-Étienne. Le pronostic vital de l'homme âgé de 70 ans est toujours engagé. La femme de 52 ans est-elle sortie aujourd'hui ? Les ruches de l'apiculteur étaient situées à quelques mètres seulement du chemin balisé. Un apiculteur désappointé, André Gory, joint au téléphone par Christophe Dupuis.
J'étais, si vous voulez, en train de récolter. Bon, c'est une période, si vous voulez, qui les rend toujours un peu plus agressives, les abeilles. La dame m'a dit, on est passé vers les ruches, vous étiez en train de récolter, vous ne nous avez pas vu. Bon, les abeilles n'ont rien dit. Après, si vous voulez, ils sont passés devant un deuxième endroit auquel j'avais récolté. Et c'est là qu'ils se sont fait piquer. Ils sont partis en courant, d'après ce que la dame m'a dit. Et elle a tombé son sac. Et le monsieur, il a voulu revenir pour chercher le sac. Et c'est là qu'il s'est fait vraiment attaquer. Moi, je suis qu'intervenu quand les pompiers sont arrivés. Que j'ai vu les pompiers. Les pompiers, en plus, ils n'étaient pas équipés. Elles étaient très, 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 très agressives, les abeilles. Et pourquoi, j'en sais rien. La dame, elle a bien compris que bon, même si c'est mes abeilles, c'est pas moi qui leur ai dit d'aller les piquer quand même. Je suis assez ennuyé comme ça. Hein.
Une femme de 20 ans et enceinte de 3 mois a été tuée par son conjoint à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé ce matin. C'est un voisin de palier qui a découvert la victime inconsciente dans son appartement après avoir entendu des cris. Âgé d'une vingtaine d'années, le conjoint a été interpellé, placé en garde à vue. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Lundi, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'alarmait dans un communiqué du nombre de féminicides depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Plus de 70. La ligne TGV entre la France et l'Italie passant par Modane en Savoie restera coupée jusqu'au 31 juillet, c'est ce qu'annonce la SNCF dans un communiqué, conséquence d'une énorme coulée de boue survenue hier pendant les orages qui ont touché la région. Le retour à la normale pour les quelques milliers de foyers encore privés d'électricité est prévu dans la soirée. 20h33 sur France Info, les informés, c'est avec Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Et Jeannie Calimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Daïk Audoui, journaliste politique à France Info sur le canal 27, la télé, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico, et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Édouard Philippe, deux jours en Corse pour tenter de renouer le lien distendu, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les élus nationalistes au pouvoir dans l'île. Le Premier ministre a notamment parlé de constitution.
C'est dans ce cadre que prendra place, dans les mêmes termes que ceux présentés l'an dernier, l'inscription de la Corse dans la constitution. Nous avions donné à l'époque des exemples très concrets de ce que ces dispositions permettraient. Il serait ainsi possible d'adapter des dispositions fiscales nationales, par exemple, pour confirmer les exonérations en matière de droits de mutation à titre gratuit. Nous souhaitons pouvoir avancer en ce sens dès lors que les conditions de la révision constitutionnelle générale seront réunies.
Voilà, il y avait de nombreux sujets sur la table. Et bien évidemment, Sylvain Courage, ce dialogue entre Paris et la Corse, toujours aussi compliqué, y compris sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Bah surtout sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais justement j'ai l'impression qu'Édouard Philippe vient pour essayer d'arrondir un peu les angles. Et là, dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, l'exonération des droits de succession, ces quelques mots-là, beaucoup de Corses vont les comprendre.
Je vois que vous connaissez le dossier.
Comme une garantie. Oui. Je crois qu'il vient aussi avec un peu d'argent, un plan pour la formation, pour lutter contre la pauvreté, pour rénover et redynamiser les centres-villes de Bastia et d'Ajaccio. Donc, on a l'impression que Édouard Philippe joue plutôt le rôle de good cop dans cette du bon flic.
Et le bad cop,
le bad cop, c'est plutôt Macron qui, à chaque Emmanuel fois qu'il Macron, vient, provoque un peu plus la colère des élus corse.
Jeannie Calimi.
Provoque la colère, mais c'est aussi une tension alimentée proprio motu par Monsieur Talamoni, Monsieur Simeoni. Peut-être pas l'opinion corse, d'ailleurs, dont on dit qu'elle se désolidarise de plus en plus de cette posture un peu crispée de la part des autorités que représentent Talamoni et Simeoni. Je veux dire, par là, je ne sais pas si dans le cadre du grand débat, par exemple, puisque Monsieur Macron, je ne cherche pas à le défendre à tout prix, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Sylvain Courage. Une fois qu'Emmanuel Macron est venu en avril en Corse dans le cadre de ses déplacements de grand débat, Monsieur Talamoni a boycotté sa venue. On peut estimer qu'il avait tous les droits, mais enfin on peut estimer aussi qu'il aurait pu venir et discuter. Il est vrai également que par exemple Édouard Philippe là qui pendant ces deux jours n'ira pas devant l'Assemblée représentative corse parce qu'il estime qu'il n'a pas à venir lui de parler d'État à État comme cherche à le faire Monsieur Talamoni et Monsieur Simeoni. Monsieur Talamoni et Monsieur Simeoni ne veulent parler qu'avec les têtes de l'exécutif parce qu'ils estiment que la Corse est potentiellement un État. Peut comprendre, je termine là, qu'Édouard Philippe et qu'Emmanuel Macron, représentants de la France, n'ont pas envie de considérer la Corse comme un État ou un futur État.
Alors, qui
alimente la crispation? Je pose la question.
Bonne question. Je me permets de rectifier tout de même la hiérarchie des choses. Gilles Simeone, c'est le président qui est autonomiste de l'exécutif corse et le gouvernement de la Corse. Il est numéro un de la hiérarchie.
Oui.
Et Jean-Guy Talamoine, c'est le président, lui, indépendantiste.
Absolument.
De l'Assemblée de Corse.
Ils n'ont pas tout à fait les mêmes visées politiques.
Non, je
suis d'accord, mais depuis un an et demi ou deux ans, on voit quand même que M. Simeone, qui est effectivement autonomiste, est de plus en plus sur les mêmes positions, même s'il accepte beaucoup plus que M. Talamoine a rencontré, par exemple, Édouard Philippe ou M. Macron.
Bien compris.
Bon, il a un discours quand même relativement au perché.
Pour poursuivre ce que vous disiez, notamment par rapport à l'opinion corse, qui ne soutient peut-être pas totalement ces deux leader.
Les idées sont portées par les autonomies sont quand même largement répandues au sein de la population.
Tout à fait, mais quand j'ai entendu Édouard Philippe, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il voulait un peu déconnecter les enjeux de développement économique et au-delà de la Corse, des enjeux de statut, d'autonomie, tout ça, avec derrière cette idée, parce qu'il a dit les Français veulent du concret et les Corses sont comme les Français, en disant moi j'apporte le concret, l'argent, dont parlait Sylvain, et vous les autonomistes, bah, vous continuez à palabrer entre guillemets. Voilà, donc quelque part l'État français est là pour assurer le développement de la Corse. J'ai cru voilà, qu'il y avait ça dans le discours, certes consensuel d'Édouard Philippe, mais quelque comme ça. Petit rappel au rôle de l'État français en tant qu'État français, parce que l'autre tonalité du discours d'Édouard Philippe, c'est de dire la France aura droit à sa, la Corse aura droit à sa spécificité, comme les autres régions de France, parce qu'on va faire une décentralisation du cousu humain pour chaque territoire, et la Corse aura son cousu humain, mais comme les autres régions de France, dans le cadre de cette décentralisation, elle n'a pas forcément un statut à part.
C'est plus que la décentralisation, excusez-moi, c'est la différenciation.
Tout à fait, mais
encore faut-il que la réforme constitutionnelle passe sous les
Il a enchaîné les deux. Il a évoqué le sort de la Corse dans le cadre de la décentralisation, c'était juste avant l'extrait qu'on a écouté, et après il a évoqué en effet la différenciation.
Alors, Jean-Sébastien Ferjou, la Corse est considérée, on va prendre un petit peu de hauteur, comme métropolitaine.
Merci.
Oh. Non mais nous allons continuer. Nous allons continuer à prendre un petit peu de hauteur sur le sujet.
Je poursuis
sur votre idée, je voudrais qu'il vous réponde en fait, Jamie Calimi. La Corse est considérée comme métropolitaine, or elle est une île, elle est quand même relativement éloignée du continent, c'est le cas de la Sardaigne vis-à-vis de l'Italie, avec tous les problèmes inhérents, le transport, cherté de la vie, l'entre-soi également, insulaire. Est-ce qu'un statut à part est-il vraiment une extravagance à l'endroit de la Corse? Ou est-ce qu'elle doit être une région comme les autres?
Mais c'est un problème. Il y a une réponse théorique. On peut considérer effectivement d'autres îles, vous les avez citées, méditerranéennes, comme la Sardaigne ou comme les Baléares, ont des statuts. Malte est un État indépendant, par ailleurs, mais ont des statuts effectivement assez différenciés des collectivités plus continentales, en quelque sorte. Après, il y a aussi autre chose. Il y a la culture politique française. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a dans ce jeu double d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Enfin, ce que vous évoquiez, Sylvain, entre le bon flic et le mauvais flic, il y a une volonté de passer au-dessus de ce débat-là, parce que, et j'ai l'impression, du reste, que M. Simeoni aussi, il l'a dit ce matin sur RTL, il considère que, de toute façon, on voit bien qu'il y a des points de blocage et que c'est pas demain qu'on va les régler, qu'en revanche, il faut avancer sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, peut-être à terme, probablement à terme, y aura-t-il une réflexion à mener, effectivement, dans le sens de ce que vous disiez, ça ne me paraîtrait pas complètement délirant. Je pense, en revanche, que c'est assez difficile à mettre en œuvre à court terme, parce que ça clash totalement avec la culture politique française.
Allez, on va rester un petit peu sur ces questions liées à l'insularité, à la Corse. Dans un instant, nous allons marquer une pause avec, à 20h40, le rappel de l'info sur France Info. Et vous, Thomas Bénèche.
Les résultats du bac tomberont-ils comme prévu après-demain? Eh bien oui, sur ce soir, le ministre de l'Éducation, des correcteurs menacent de garder les copies qui leur ont été remises, cela pour forcer le gouvernement à rouvrir les négociations sur la réforme du baccalauréat et du lycée. Cette cuvée du bac 2019 a été marquée par des fuites lors de l'épreuve de mathématiques. 12 personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire, des élèves interpellés en Ile-de-France, à Marseille. Les informations ont circulé auprès des suspects sur la messagerie privée WhatsApp. L'ancien premier ministre aujourd'hui décédé, Raymond Barre, a-t-il détenu un compte caché en Suisse crédité de 7 millions d'euros? Ses enfants en auraient-ils ensuite bénéficié? Bien, le parquet national financier mène l'enquête. Une information judiciaire est ouverte depuis 3 ans pour blanchiment de fraude fiscale. En football, à la rubrique transfert, Youssouf Koné est annoncé à Lyon, montant de la transaction 9 millions d'euros. Le transfert ne sera bouclé qu'à l'issue de la visite médicale du joueur malien.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons évoquer cet étonnant dossier fiscal concernant Raymond Barre révélé par le Canard enchaîné. Mais encore quelques mots sur la situation en Corse. Sylvain Courage, parmi les revendications des élus de l'Assemblée de Corse et des élus nationalistes, il y a ce qu'on appelle le rapprochement des détenus. Est-il nécessaire? Et il est question pour les uns et les autres d'amnistie de ce que ces élus concernés appellent les prisonniers politiques.
Oui, alors la question du rapprochement, ça c'est peut-être quelque chose qui peut être pris en compte, parce que c'est vrai que pour les visites et même pour les réinsertions des détenus, c'est pas forcément une bonne chose. La question de l'amnistie, ça je pense que du côté de l'État français, c'est niet, parce que justement, ce serait considéré que ce qui a été jugé de droit commun pourrait être un crime politique. Je ne crois pas que ça existe dans notre droit pénal, et donc c'est une revendication qui est exorbitante en regard du droit français, mais je sais qu'elle est très importante et qu'elle est portée depuis longtemps par le mouvement indépendantiste en Corse. Et c'est un des points d'achoppement avec Paris.
Jean-Sébastien Ferjou.
Ce ne sont évidemment pas des prisonniers politiques. Il n'y a pas de crime politique, effectivement. Enfin, ça, c'est vraiment la sémantique employée par des gens qui, précisément, voudraient s'inscrire dans une logique plutôt indépendantiste. Après, il me semble que la question du rapprochement des prisonniers ou des détenus, elle se heurte à une difficulté technique. C'est qu'il n'y a pas de maison d'arrêt ou de prison centrale correspondant au niveau de sécurité des détenus en question. Donc, après, on peut toujours décider qu'il faut en construire spécialement pour eux, mais c'est pas une volonté particulière de sanction ou d'humiliation, c'est vraiment un problème technique.
Jeannick Halimi.
Il y a un autre élément sur que demande une exigence
la co-officialité de la langue.
La co-officialité de la langue corse qui est demandée aussi bien par Monsieur Talamone, n'est-ce pas, que par Monsieur Simeoni, oui. Par les deux.
Vous avez raison.
Et sur lesquels les pouvoirs publics, Édouard Philippe, Emmanuel Macron et les autres présidents de gauche comme de droite n'ont jamais voulu accéder. Voilà, au nom bien sûr de.
En rappelant au passage qu'il y a des enseignements bilingues dans les écoles corses depuis de longues années. Daïk Oudoui, sur toutes ces revendications qui n'en finissent pas de durer.
Hein, on va dire. Justement, ça serait un signal qu'enverrait Emmanuel Macron l'opinion sur les prisonniers politiques ou une amnistie, un signal comment il serait perçu par l'opinion française non corse, qui se fiche peut-être des problèmes corses, parce que, évidemment, le voyage d'Édouard Philippe est scruté par les Corses. Je ne sais pas si l'opinion française est suspendue à cette question-là. En revanche, s'il donnait une amnistie aux assassins, notamment du préfet Erignac, ça serait très mal perçu par l'opinion française. En tout cas, ça serait perçu comme un manque de fermeté de la part d'Emmanuel Macron. Et donc, ça serait gênant pour lui sur d'autres dossiers.
Encore un dernier mot sur la question
Jean-Sébastien des dirigeants corse, oui. Qu'ils soient autonomistes ou indépendantistes, parce que derrière chacune de ces questions se cachent des petites mines, en fait. La question de la co-officialité de la langue corse, elle paraît pareil, un peu philosophique. Est-ce que la République est une et indivisible? Est-ce que cette unité de la République peut vivre avec différentes langues? Ça, c'est des questions de philosophie politique. Il y a une autre réalité, c'est qui seraient les enseignants en langue corse? Parce qu'il se trouve que ceux qui, justement, sont formés à l'université de Corte sont pour l'essentiel des indépendantistes. Donc, derrière, on a vu ce qui s'est passé en Catalogne, la progression du mouvement indépendantiste s'est fait justement par le biais de la langue et par le biais des enseignants qui étaient mis dans les écoles.
Il y a un autre obstacle à la co-officialité de la langue, c'est qu'il y a l'exemple catalan. En Catalogne, l'enseignement du catalan est maintenant considéré comme un des vecteurs de
la revendication. Par la sociologie des professeurs, pas en soi, par l'enseignement, mais par la sociologie.
Attention tout de même.
À vous de conclure, Jeannick Halimi.
Attention, l'enchaînement des faits et techniques et des faits politiques dont l'Europe est pleine depuis quelques années, c'est-à-dire ces tendances régionalistes, d'ailleurs la plupart du temps de la part de régions riches, qui ne veulent plus participer au pot commun au nom de la mutualisation des richesses au profit des régions les plus défavorisées. Méfions-nous de cet enchaînement de régionalisme qui se transforme en séparatisme avec des boules de neige, je ne dis pas que ce serait le cas de la Corse, mais populistes, et avec des gouvernements qui sont de plus en plus à droite et ô combien loin et éloignés des exigences primaires, primitives, enfin d'origine, pardonnez-moi, des régions telles que la langue ou tout simplement un développement économique renforcé.
Allez, à propos d'enchaînement, le magot suisse de Raymond Barre, découvert par les limiers du fisc, c'est ce titre du Canard enchaîné, donc, qui ne date pas d'il y a 40 ans, mais de ce matin, l'hebdomadaire a révélé que la justice française avait ouvert en 2016 une enquête pour faire la lumière sur un trésor que celui qui fut le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing aurait caché en Suisse de son vivant. Cela rappelle d'autres péripéties plus récentes. Le Canard enchaîné donne la somme de 11 millions de francs suisses, 7 millions d'euros de 2007, année du décès de Raymond Barre, qui aurait été dissimulé au fisc français. Je vous propose de réécouter celui que Giscard appelait le meilleur économiste de France, déclaré à l'Assemblée nationale après son arrivée à Matignon en 1976.
La première démarche en ce domaine est de faire disparaître la fraude fiscale. celle-ci crée. Oui, oui. Celle-ci crée. Celle-ci crée des privilèges iniques auxquels les Français sont de plus en plus sensibles.
Voilà donc cet extrait de Raymond Barre en 76 d'Aïk Audouy. Alors il faut attendre évidemment les conclusions de cette enquête au long cours. Le Canard Enchaîné rappelle d'ailleurs que les fils de l'ancien Premier ministre ont réglé depuis près d'un million d'euros pour régulariser la situation fiscale. Très croustillant quand même cet extrait et au regard de ce qui est aujourd'hui qui fait l'objet d'une enquête.
Oui, ça nous fait sourire parce que Raymond Barre appartient au passé. Là, les images qu'on a vues donc d'il y a plus de 40 ans et pourtant c'est quand même assez dramatique pour l'image que les Français ont des politiques. Surtout que Raymond Barre incarnait peut-être de façon idéale, hein, avec le temps ou de façon rétrospective, il incarnait une certaine forme d'honnêteté. En tout cas, c'était son positionnement par rapport au RPR, par rapport à Jacques Chirac, qui avait cette réputation de barbouze. Lui, Raymond Barre, c'était en effet le meilleur économiste de France. Il demandait aux gens de faire des efforts aussi. C'était ce qu'il martelait comme discours de Premier ministre. Et lui, il n'appliquait pas ses efforts. Alors, évidemment, les plus jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, ils savent pas que Raymond Barre nous demandait des efforts. Mais nous, on le sait. Et c'est dramatique pour l'image du politique, quoi. Même 40 ans après, quoi. Ça fait sourire, comme ça, là. Mais après, on se dit, y a aucune leçon qui a été retenue, c'est toujours pareil, c'est consubstantiel à la politique, en fait.
Jean-Sébastien Ferjou, prudence, enquête en cours, il faut le rappeler, mais ça vous fait sourire, vous également, hein.
Non, c'était plus la manière dont on en parlait qui me fait sourire. Non, mais je trouve ça... Moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement que les gens le fassent, la nature humaine est la nature humaine. Après, il faudrait savoir s'il l'a fait du temps où il était Premier ministre ou une fois qu'il y a eu François Mitterrand, parce qu'il me semble que beaucoup de Français, au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, ont pu avoir peur pour leurs économies et que les campagnes de nationalisation qui ont été mises en œuvre avec des gens comme Jean Glavany ou Henri Emmanuelli quand ils débarquaient dans les entreprises nationalisées... Donc je veux dire, voilà, c'est à prendre peut-être en compte dans la situation, mais ce qui me frappe, c'est que tous ces hommes politiques-là soient incapables d'en tirer des conclusions. Ils y sont confrontés dans leur vie personnelle, à la lourdeur, à la complexité du système fiscal français, et aucun n'a le courage politique de le simplifier. On ne le répétera jamais assez, un bon impôt, c'est un impôt à taux bas et à assiette large. On l'a vu encore récemment avec la flat tax sur l'impôt sur les sociétés. Bah oui, mais ça fait sourire, mais ça n'empêche pas que beaucoup de gens ont crié à l'injustice, que c'était encore un cadeau, soi-disant, fait aux entreprises.
C'est sûr que s'il n'y avait pas d'impôt sur la fortune.
Ça a quand même rapporté à l'État plus que le système précédent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même, en fiscalité, il ne faut pas faire de morale, il faut s'attaquer. Et on a besoin d'un Big Bang fiscal pour que le système français soit beaucoup plus simple. Parce que le meilleur moyen de lutter contre la fraude, ce n'est pas de mettre des mesures toujours plus intrusives, c'est d'avoir un système fiscal simple, parce que c'est comme ça qu'il n'y a pas de fraude.
Qu'alliez-vous dire, Jeannie Calmi, sur l'ISF ?
Les millionnaires américains voudraient payer l'équivalent d'un ISF aux États-Unis. Donc, vous voyez, même ça, c'est extrêmement subjectif. Même si on pas ou les milliardaires. Non, je voulais juste dire que rappelons tout de même que encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que ce serait constitué ce trésor caché. Mais Raymond Barre s'est présenté à la présidentielle en 1988, donc je ne sais pas
s'il fut le troisième homme.
Voilà, exactement. Donc je ne sais pas si ce pactole était déjà constitué.
Ce qui est fascinant, c'est quand même 13 millions d'euros pour un professeur d'économie.
C'est énorme, mais il avait des.
Il avait pas mal
d'activités annexes, notamment au niveau suisse, avec
des. Il avait aussi des fonds cachés quand il était à Matignon, probablement.
Je ne sais pas, j'en sais rien, premièrement. Deuxièmement, on peut se demander aussi ce fameux secret bancaire suisse qui devait être totalement réglé depuis les différents accords internationaux qu'il y a eu après la crise, quand même, qui remonte à il y a 10 ans, la crise financière. On ne découvre que maintenant.
Il faut générer des enquêtes pour que le secret se révèle.
Il y a 3 ans.
Oui, mais enfin, elles ont mis quand même. Il y a 3 ans, pardonnez-moi.
Déjà, il y a 3 ans. Dans l'affaire Cahuzac, on disait qu'il y a un autre grand nom français qui pourrait être impliqué.
Ah oui, effectivement. Là, c'est il y a 3 ans,
mais tout de même.
Que c'est quand même une vraie question, comment on a une villa en type, comment on a un patrimoine aussi conséquent en étant financeur.
Conclusion, Sylvain Courage.
Il y avait une fortune familiale aussi, accumulée à La Réunion, dans le commerce du sucre. Donc c'est vrai que...
Il y a des fonctionnaires européens aussi.
Voilà, suivant l'origine des fonds, évidemment, le pire serait des fonds secrets, des fonds détournés de l'État.
On sait bien que ça a fonctionné comme ça pendant des décennies.
Vous êtes intéressable sur Raymond Barre, 20h51 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bellèche.
Le CETA est un bon accord, souligne ce soir sur France Info Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères a été ce soir l'invité du 19-20 politique. Ce matin, au Conseil des ministres, le gouvernement a donné son feu vert à la ratification par l'Assemblée nationale de ce CETA. Ce texte vise à favoriser les échanges entre Europe et Canada. Un homme de 70 ans, toujours ce soir dans un état grave. Hier, il est piqué par des abeilles à plusieurs centaines de reprises. C'était sur la commune du Brignon en Haute-Loire. Sa compagne âgée de 52 ans a elle aussi été piquée. Dans ce dossier, un apiculteur pourrait être mis en cause. Le parquet du Puy-en-Velay ouvre une enquête pour blessures involontaires. Boeing sort le carnet de chèques après les deux crashs ces derniers mois de ses avions 737 MAX. Le constructeur aéronautique va verser 100 millions de dollars aux familles de victimes de ces catastrophes aériennes. Ces accidents en octobre et mars dernier ont fait un total de 346 morts. Qui va rejoindre les États-Unis en finale de la Coupe du Monde féminine de football, les Pays-Bas ou la Suède? Eh bien, les deux équipes s'affrontent ce soir à Lyon. Le coup d'envoi de cette demi-finale de la Coupe du Monde féminine de football, eh bien, c'est dans 10 petites minutes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Une proposition de loi contre la haine sur Internet déposée à l'Assemblée nationale. Nous en avons beaucoup parlé sur les antennes de France Info. Il faut faire drastiquement baisser le niveau de cette haine en ligne, a demandé Cédric O. Mais comment ça marche? Le secrétaire d'État en charge du numérique s'en est expliqué sur France Info ce matin.
Les plateformes doivent se doter des moyens de modération internes qui permettent de retirer sous 24 heures les contenus haineux signalés par un internaute.
Ça se fera comment? Si vous, par exemple, vous repérez sur Internet un contenu raciste, comment vous le signalez? Il y aura un numéro à appeler. On nous parle d'un bouton, un bouton virtuel, évidemment.
Un bouton obligatoire, très facile et très facile à voir, d'ailleurs, qui permettra très facilement de signaler tout contenu que vous jugez haineux ou homophobe.
Qui ne sera pas au fin fond d'un menu introuvable?
Ah non, qui sera juste sous le contenu en question.
Un bouton, Yannick Halimi, et clic, c'est réglé?
C'est réglé. En tout cas, l'idée, c'est effectivement d'essayer de trouver une parade à tous ces propos antisémites tenus sur notamment Twitter, Facebook et tous ces réseaux sociaux. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des lois. C'est vrai que quelqu'un comme Alain Soral, antisémite condamné pour des propos antisémites, peut-être condamné à de la prison ferme, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, mais il pour propos antisémites. Mais il peut continuer tout de même à distiller les mêmes propos sur des réseaux sociaux. Donc il y a un vrai problème que les lois aujourd'hui n'arrivent pas totalement à régler. Maintenant, au-delà des bonnes intentions et peut-être des progrès que ça peut faire, il y a quand même énormément de points d'interrogation. Une des plus importantes critiques, c'est de dire que c'est aux plateformes elles-mêmes de s'auto-discipliner, ce qui n'est pas évident. Le rôle du juge est considérablement réduit. Et puis, qu'est-ce que sont ces propos antisémites ou ces appels au proxénétisme ou à la violence sexuelle? Qui pourra les interpréter?
Est-ce que ce sont des appels à la haine?
C'est très compliqué.
Et il y a le risque que les plateformes surmodèrent, et notamment qu'elles modèrent avec des algorithmes, avec des mots-clés.
C'est ce qu'elles font déjà, mais là, comme il y a le côté
24 heures, il faut retirer en 24 heures. C'est le risque, soulevé en tout cas par les plateformes, de dire, voilà, il y a un risque d'atteinte à la liberté d'expression, qu'on ne pourrait plus rien dire parce que les plateformes auront des précautions qui limiteront la liberté d'expression.
Ceux tenus par Raymond Barre en 1980 ou 80 après l'attentat antisémite de la synagogue Copernic, qui était de dire il y a en plus parmi les victimes des Français innocents qui passaient dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui ça relèverait des propos d'appel à la haine ou des propos antisémites qui pourraient tomber sous le coup de cette nouvelle loi? Point d'interrogation, c'est compliqué.
Jean-Sébastien Ferjou, Atlantico est un média du net qui décide du contenu et du caractère peut-être haineux de ce qu'ils peuvent contenir.
Mais ça n'a rien à voir avec un réseau social, parce que nous sommes une rédaction, nous sommes responsables de nos propos.
Mais vous êtes sensibilité à ce qui se passe sur le net.
Des commentaires, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Il y a un enjeu technique, parce que il faut encore, vu le volume de choses à modérer, c'est un enjeu technique, et c'est là où on peut tomber rapidement dans des pièges, parce que les seuls acteurs en l'état à avoir les moyens financiers de faire de l'intelligence artificielle pour justement modérer ces propos sont les acteurs américains et pour l'essentiel Facebook. Donc déjà, on est en train potentiellement
d'affaiblir les autres acteurs que Facebook.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler ce qui se passe sur leur propre réseau social.
Vous pouvez mettre en place un système de modération a posteriori, effectivement, de modération humain. Après, moi, je pense effectivement qu'il est dangereux de le déléguer aux réseaux sociaux. Ça n'est pas aux réseaux sociaux d'apprécier ce qui est un propos raciste, antisémite, homophobe ou autre. Il faut rappeler, on peut détester le propos, ça n'empêche pas que le droit français est comme ça, que quand Christine Boutin avait dit que l'homosexualité était une ignominie, il a fallu aller jusqu'en cour de cassation pour qu'on se rende compte qu'elle avait le droit de le dire. Moi, je crois à la liberté d'expression, justement. Donc, il faut surtout pas tomber dans les pièges. Et surtout, j'ai l'impression d'autre chose. C'est une espèce de pacte faustien avec les réseaux sociaux, parce que les vrais sujets, c'est pas tellement ça. Il y a de la haine, mais la haine, elle est dans la société. C'est en luttant contre la haine dans la société et c'est en apaisant les relations sociales qu'on atteindra des résultats. C'est pas en cassant le thermomètre, en quelque sorte. Par ailleurs, le vrai enjeu, c'est que font les réseaux sociaux de nos données personnelles, parce que c'est un vrai sujet, et les algorithmes qu'ils emploient, parce que pour le coup, ça accentue les fractures.
Conclusion sur ce sujet avec vous, Sylvain Courage.
Par une anecdote, en 2016, Microsoft avait branché une intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, et c'était une intelligence artificielle qui apprenait en conversant avec les internautes, et ils ont été obligés de la débrancher au bout de 24 heures, car elle était devenue nazie. L'intelligence artificielle.
Voilà l'exemple pour conclure.
Donc il y a quand même un effet d'amplification de l'insulte sur les réseaux sociaux qui est un problème technique à régler.
La une avec vous de l'Obs, Sylvain.
C'est la confiance en soi. Qui est aussi la confiance en les autres, nous dit l'Obs.
Jeanne Calimi, qu'y a-t-il à la une du Parisien aujourd'hui
c'est
en France?
C'est l'invasion des moustiques tigres qui, figurez-vous, ont envahi la moitié de la France métropolitaine.
Vrai sujet. Jean-Sébastien Ferjou sur Atlantico.fr.
Justement, sur le sujet dont je viens de parler, pourquoi cette loi, derrière de bonnes intentions, est en train de tomber dans bien des pièges.
Et merci à vous également, Daïk Audoui, qu'on retrouve sur France Info. La télé, nos amis, nos frères, sur la chaîne 27, 20h58 sur France Info. Merci d'avoir suivi les informés. Je vous propose de nous retrouver demain soir pour une prochaine édition. Bonne soirée à vous.